marche de l'histoire, du lundi au vendredi sur France Inter à 13h30.
Comme à chaque étape, vous serez emporté par le flot puissant de l'histoire.
La croisière, première, deuxième, troisième classe.
C'est le plus grand paquebot du monde et il est arrivé à Marseille ce matin. Le Symphony of the Seas est long de 362 mètres, embarque 6500 passagers et 2500 membres d'équipage. Un bateau gigantesque sorti des chantiers de Saint-Nazaire il y a quelques semaines à peine et qui est la propriété du groupe américain Royal Caribbean.
À côté de l'Aquarius, 58 passagers, n'en parlons plus, calculons plus large. Le Symphony of the Seas, 6600 passagers donc. La Méditerranée, le deuxième bassin mondial pour les croisiéristes. Les croisiéristes, un secteur de pointe. 7% de croissance par an depuis une génération. Ils doivent éditer leur catalogue un an à l'avance et ils ne peuvent, disent-ils, s'accommoder d'un espace où la sécurité ferait défaut. Les nouveaux géants de la mer, avec leurs étages de cabines à balcon qui font penser à des HLM, n'ont plus grand-chose à voir avec les transatlantiques d'antan. Leur construction assure au chantier naval de Saint-Nazaire l'emploi et la fierté. Cependant, les ports ne se pressent plus autant pour les accueillir. S'ils sont encore nourris au fioul, ils polluent énormément. Dans les sites fragiles, ils déstabilisent les rives. Et que dépensent leurs clients à terre? Bien peu. La destination du géant des mers, c'est le bateau lui-même qui fonctionne comme un parc d'attractions. On parle jusqu'ici du bas ou du milieu de gamme. On ne dit plus troisième et deuxième classe, mais enfin, on le pense tout bas. Si, d'aventure, les bateaux géants provoquaient demain la saturation, et si par malheur, leur sécurité se trouvait prise en défaut, il resterait aux croisiéristes les produits d'exception, les destinations vierges. Le public chic est par exemple très friand d'Antarctique et d'Arctique. C'est le même sans doute qui se désole du changement climatique. Mais la croisière n'est pas une contradiction près. Elle promet la sérénité dans une mer qui est tout sauf tranquille. On se souvient peut-être de « Et la nave va » de Fellini. Un bateau de première classe appareil dans la douceur de l'été 1914. Et bientôt, il croise un bateau de réfugiés. Au moins, ne tire-t-il pas sur lui, comme vient de le faire hier, la marine nationale marocaine. La croisière abuse, mais n'a pas de bras armés.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
Cyril Coutancet, bonjour.
Bonjour.
On se souvient peut-être que vous étiez venu parler ici d'un livre avec Claire de Marignan, votre commère en l'affaire, qui s'intitulait « La mer, nouvelle Eldorado ». Et puis on avait remarqué dans la revue Études de cet été un excellent article de Claire de Marignan sur ce sujet de la croisière. Où il est dit que c'est dans les années 60, peut-être à cause de l'arrivée des avions à réaction, que les transatlantiques désarment, enfin je veux dire, comprennent que leur avenir, leur spécificité à eux, c'est le luxe, le calme et la volupté.
C'est exactement ça, c'est l'arrivée de l'avion à réaction. On peut traverser l'Atlantique en quelques heures, alors qu'auparavant il fallait quelques jours. Et donc c'est la fin de ces paquebots, le France, auparavant le Titanic, qui transportaient à la fois des passagers, parce que c'était leur mission première, et puis qui offraient des prestations de luxe, effectivement, en supplément. Et là, ce système ne fonctionne plus. Le plus bel exemple, je trouve, de la transition entre ces deux époques, c'est justement le France. Le France est lancé donc comme bateau transatlantique pour transporter des passagers. Il ne trouve pas son modèle économique. Il est racheté par un Norvégien qui lance la première compagnie de croisière moderne, on va dire. Et le France, rebaptisé Norway, est rentable, cette fois, dans les Caraïbes, comme bateau de croisière.
C'est une nouvelle époque qui s'ouvre. Sur des circuits plus courts, comme en a inventé le Norvégien Knut Kloster ou l'Américain Ted Harrison. Miami, grande capitale de la croisière, Floride et Caraïbes.
Exactement. Et donc c'est un modèle nouveau où, pour le coup, c'est le bateau, effectivement, comme vous l'avez souligné, qui devient le lieu de destination. Le modèle de la croisière est assez particulier, puisqu'en gros, quand vous achetez un billet pour embarquer sur un bateau de croisière, vous allez payer l'exploitation du navire. Et tout le bénéfice que vont faire les compagnies de croisière, c'est sur l'argent qui va être dépensé à bord du navire. C'est pour ça qu'il y a de plus en plus d'activités, des spas, des piscines, des boissons, des toboggans, etc.
Des mini-golf,
puisque c'est là-dessus qu'on gagne effectivement son argent.
Et pas aux escales. 75% le prix du billet, 24% les consommations à bord, et 1% les excursions que vous achetez aux escales.
Effectivement, l'intérêt des compagnies de croisière, ça n'est pas tellement... Alors, il faut présenter des destinations qui font rêver, bien évidemment, pour attirer le client, mais l'objectif des compagnies de croisière, c'est pas tellement que les clients restent très longtemps à terre, il faut qu'ils restent au maximum sur le navire pour pouvoir, justement, les faire dépenser à bord.
Les villes flottantes, j'ai appelé ça des HLM des mers, on pourrait dire des prototypes qui imitent les pronostics de Jules Verne.
Oui, Jules Verne, effectivement, en 1865, avait fait une traversée de l'Atlantique sur le Great Eastern, un premier navire qui était similaire au Titanic. Il en avait tiré un très joli roman d'une centaine de pages, Une ville flottante. Et il avait, avec son don de l'anticipation habituelle, déjà vu ce qui était problématique dans les navires de croisière, ce qui pouvait être problématique, c'est-à-dire le gigantisme. Il est effaré par le nombre de passagers, il y en a près de 4000. Et puis, l'espèce de folie des grandeurs qui peut s'emparer de l'esprit du capitaine, qui veut défier les éléments, aller très vite, au risque de la vie des passagers.
On ne fera jamais assez de publicité à France Inter. La compagnie que voici, qui va être citée plus d'une fois, est connue dans les annales des croisières, comme dans les annales judiciaires.
Tout ce faste vous a ouvert l'appétit ? Rendez-vous dans l'un des nombreux restaurants à bord. Voici Legend Market Kitchen, conçu avec le chef primé Roy Yamaguchi, qui propose des mets inspirés de son héritage japonais. Vivez une expérience culinaire inoubliable.
Vous n'avez pas de table pour deux?
Ah non, monsieur, je suis désolé.
Oh, je t'avais dit à l'agence que nous aurions dû insister pour avoir une table.
Ah, je sais, oui.
Monsieur et Madame Boulon, Monsieur et Madame Bouchard.
Madame, Monsieur.
Madame.
Merci. Tout commence par un mutisme gêné bien agréable. Peut-être que tout ça ne sera pas trop pénible, mais ça ne va pas durer. Prenons Monsieur Émile Boulon. Il ne va pas tarder à briser la glace.
Permettez.
Oh, je suis maladroit. Excusez-moi.
Non, c'est rien, ce n'est que de l'eau.
Oui, mais... À bord d'un bateau, ça peut être dangereux, hein.
Monsieur Boulon va se révéler être d'une redoutable bonne humeur.
Je suis à peine sorti du port, je me conduis déjà comme un cochon. Vous savez, on a 30 repas à manger ensemble, hein.
Eh oui.
Alors on va finir par se connaître, forcément.
Après la pub MSC, je dis le nom, une scénette de Goscinny. Oui, alors, la tenue pour le dîner, il est recommandé qu'elle soit correcte, mais... On a affaire à un phénomène de massification, comme d'ailleurs dans l'aviation.
On a
donc ces deuxième et troisième classes, disent les habitués de la première.
C'est exactement ça, on a affaire à un phénomène de massification. Vous l'aviez cité avec le dernier navire lancé par les chantiers de Saint-Nazaire. On est quand même sur des navires qui transportent plus de 8000 personnes, membres d'équipage compris, et puis qui poussent au gigantisme, parce que finalement c'est un marché totalement atypique du point de vue des économistes capitalistes, puisque c'est un marché où l'offre crée la demande. Plus on met de bateaux et plus ils se remplissent. Et donc on est poussé dans une course au gigantisme et au nombre de navires absolument considérable. Il faut imaginer qu'on a actuellement 114 navires qui vont être en construction d'ici à 2027. Donc on est toujours sur toujours plus de navires, toujours plus grands.
C'est une croissance inouïe. 1980, 1 400 000 passagers à travers le monde. 2018, 27 millions et davantage.
Exactement. Et alors, un marché qui, ceci dit, est quand même centré sur les Caraïbes et la Méditerranée. Et donc un marché qui est centré sur le continent nord-américain et le continent européen, pour une raison simple, c'est que pour partir en croisière, il faut avoir des congés payés. Et d'ailleurs, les croisières sont nées avec l'augmentation du nombre de congés payés. Et par exemple, c'est un marché qui ne décolle pas en Asie, puisque en Chine, par exemple, le nombre de congés payés étant assez réduit, et ben, voyager en croisière n'est pas forcément très attractif.
Et il y a complémentarité avec les compagnies aériennes, parce qu'il faut partir d'un endroit où peuvent arriver en masse des passagers.
Exactement, il faut des grands aéroports, des grands ports, et puis des lieux de destination qui soient attractifs, et qui puissent accueillir des gigantesques paquebots. Alors certaines villes, au départ, qui étaient favorables à ce genre de tourisme, comme Venise, par exemple, maintenant sont un peu plus sur le recul devant la massification de ces navires.
On les comprend, 1 500 000 passagers qui débarquent brièvement à Venise. On ne parle jamais des équipages. Peut-être est-il difficile de les interroger à bord. Heureusement, il y a encore, comme dans ce port américain, des maisons du marin, c'est-à-dire des endroits où on accueille les marins, on les loge pas trop cher, ils boivent pas trop en principe.
Ça se perd, c'est une tradition qui se perd.
Philippins, Serbes ou Colombiens, ils profitent de la connexion gratuite pour joindre leurs proches. Un guichet de banque permet aussi d'envoyer de l'argent à l'étranger. Ryan est steward sur un paquebot. Il habite à 18 000 km de la Floride.
J'envoie mon argent à la maison.
Et où est votre maison ?
En Indonésie. Pour un mois, je gagne 500 euros. J'en garde la moitié pour moi et j'envoie le reste de mon salaire là-bas.
Les employés travaillent 7 jours sur 7 à bord. La petite épicerie de la maison des marins leur permet d'améliorer leur dîner. Vous n'avez pas vu votre famille depuis combien de temps ?
5 mois.
Et comment vous vous sentez ?
Très seul.
Une tradition qui se perd, peut-être le chant de marin à bord. Chez Costa, il y a des robots. On utilise des robots.
Oui, le monde des marins est un monde qui a profondément évolué et qui est en constante évolution, puisque d'abord on a des nationalités dans le monde qui fournissent les plus gros contingents de marins. On l'entendait dans votre illustration sonore, les Philippins sont présents sur la plupart des navires du monde, quelle que soit la nationalité. Il y a une autre évolution aussi qui est marquée. C'est un monde à part d'ailleurs, parce que l'Organisation Internationale du Travail a créé un SMIC mondial pour les marins. Je crois que c'est le seul secteur où il y a ça. Alors un SMIC qui n'est pas forcément très élevé, mais c'est le seul domaine où il y a ça. Et c'est un monde qui est en pleine évolution encore avec l'arrivée d'Internet, parce que justement les chants qu'on entendait, le fameux esprit d'équipage, est quelque chose qui est en train de se diluer petit à petit. Parce que l'arrivée d'Internet fait que quand les marins ont terminé avec leur service, ils se mettent dans leur cabine, ils se connectent avec leur famille à terre, ce qui n'existait pas pendant des siècles. On était à bord et on était en équipage. Et maintenant, il y a des fonctionnements beaucoup plus individualisés. Et puis effectivement, on arrive, dans les années qui vont venir, aux navires autonomes, aux navires sans équipage. C'est quelque chose qui est dans les cartons.
Dites-moi, quel est le pavillon le plus avantageux pour un marin ? Panama n'a que des avantages, enfin pas toujours, mais...
Alors pour la compagnie, effectivement, Panama peut être avantageuse. Pour un marin, après, effectivement, il vaut mieux être sur un pavillon, français, on a toute une série de protections. Ce qui est assez... en fait, on a des pavillons qui sont pluriels, c'est-à-dire qu'une même compagnie peut avoir des navires sous pavillon français, une compagnie française par exemple, peut avoir des navires sous pavillon français, sous pavillon panaméen ou autre. Selon le type d'activité, selon la rentabilité qu'on va chercher, on va choisir différents types de pavillons.
Est-ce qu'on vous a assez dit les avantages de MSC ?
Ce coton n'est pas n'importe quel coton. Il a été soigneusement sélectionné afin de préparer un lit où on se dira « je t'aime ». Mais pas devant n'importe quel paysage. Pendant que d'autres s'amusent, mais pas dans n'importe quelle piscine. Sur n'importe quel bateau. Parce que ce n'est pas n'importe quelle croisière. C'est une croisière MSC.
Croisière méditerranéenne, sourire carnassier de Murène, très loin des sirènes italiennes. tu atteindras ces rives sombres, très près des côtes siciliennes, les vierges noires comme une traîne. Imaginez la mer qu'on a payée si cher. Imaginez la mer.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
Les croisières qui deviennent un fait social total et qui mériteraient d'ouvrir de véritables chantiers navals. Cyril Coutançais, notre invité, serait prêt à y participer. Oui, on présente toujours une des contradictions de la croisière se tient là, la croisière comme un lieu de tranquillité. Voir la collision de 2012, Costa Concordia.
Oui, alors ça c'est... On en revient à Jules Verne finalement. C'est le capitaine qui est un peu saisi de la folie des grandeurs, qui veut rapprocher son navire de la côte. Qui se sent un peu invulnérable et puis résultat c'est la catastrophe, 30 personnes qui disparaissent. Les inquiétudes effectivement qu'il peut y avoir autour de ces navires de croisière aujourd'hui tiennent à leur gigantisme. Évacuer 8000 personnes en un temps record pour peu qu'il y ait un incendie, la grande crainte qu'il y a toujours sur un navire demanderait un certain temps, donc ça peut être compliqué. Le Costa Concordia, d'une certaine manière, la chance, c'est qu'il s'est abîmé près des côtes. On se souvient évidemment du Titanic. Il y a évidemment toute une série de normes internationales qui sont rentrées en vigueur pour essayer de sécuriser au maximum ce type de navire. Il n'empêche que 8000 personnes, ça n'est pas rien, et qu'il faut avoir les navires à proximité pour pouvoir recueillir ces ensembles de personnes.
L'incendie, ainsi a fini l'Aquilée Lahoro en 1994, l'Aquilée Lahoro qui, en 1985, avait été le cadre d'une prise d'otage. Il avait appareillé de Gênes pour Israël parmi les 1077 passagers. C'est peu de choses, hein, 1077, ce sont les chiffres de 85. Quatre Palestiniens qui voulaient débarquer en Israël et commettre un attentat suicide. Sauf que, quand on a quitté le port d'Alexandrie, ils ont été surpris par un membre d'équipage pendant qu'ils nettoyaient leur Kalachnikov. Et ils ont pris en otage le bateau, parmi les otages Charlotte Knobloch, au micro de Radio France Alsace. Elle est saine et sauve, ce n'est pas le cas d'un otage juif handicapé qui était sur son fauteuil roulant, monsieur Klinghoffer, qui a été jeté à la mer. On entendra un extrait de l'opéra qui lui a été consacré peu de temps après sa mort sur l'Aquilée Lahoro.
On était à table en attendant pour manger le dessert. Et voilà que tout le personnel accourt vers nous, affolé, et on entendait des coups de fusil tirés en l'air. Et ils nous ont suivis, on nous fait des signaux de les accompagner. On est descendu en bas. Ensuite, ils nous ont remontés dans les cuisines. Et des cuisines, moi, je me suis évadée, je suis montée tout en haut la piscine, toute seule. Alors je me suis dit, mince, toute seule, s'ils me trouvent là-haut, ils vont me fusiller. Comme ils ont déjà tiré dans les jambes d'un des marins qui a voulu se sauver, ils lui ont tiré dans les jambes et je l'ai vu hurler là par terre dans la salle à manger.
Tout de suite à l'arrivée ?
Tout de suite à l'arrivée.
Combien vous avez vu d'hommes, d'agresseurs sur le bateau ?
Il y en avait 4.
Simple, exploit the virgin, pollute where you have exploited, defame those you cheated, and break the wrong law with the country. America is one in two.
Les représentations de l'opéra de John Adams, notamment aux États-Unis en 2014, ont été perturbées. Un certain nombre de manifestants venaient en fauteuil roulant
dire que les protagonistes n'avaient pas été traités sur un pied d'égalité. Les Juifs n'étaient pas les seuls à manifester. Donc il a fallu fouiller de très près les spectateurs du Metropolitan. Le Metropolitan a renoncé à la diffusion dans 2000 cinémas à travers le monde, parce qu'il aurait fallu fouiller tous les spectateurs de toutes les salles de cinéma. Et comment d'ailleurs fouille-t-on 6600, 7000 personnes, 8000 personnes?
Alors c'est la difficulté, et effectivement c'est un point qui est bien souligné par Claire de Marignan dans cet article, quand elle évoque le risque d'un Bataclan sur mer. Une des grandes inquiétudes, c'est ça. Alors à la fois, bon, les passagers sont filtrés évidemment quand ils rentrent sur le bateau, mais il y a un autre risque qui avait été justement, qui faisait partie des inquiétudes au moment où l'État islamique s'était implanté de façon importante en Libye, c'était d'une arrivée par la mer. Puisque effectivement à terre, à l'embarquement, on peut éventuellement contrôler, mais il suffit que des navires viennent par la mer et s'en prennent aux bateaux de croisière, là ça devient beaucoup plus compliqué. Et sécuriser un navire qui a 8000 passagers est très très complexe, et un navire où il y aurait une prise d'otage effectivement avec 8000 personnes à bord, à résoudre, ça devient très compliqué.
Quand ils sont encore alimentés au fioul, ce sont des bateaux vraiment hors normes environnementales.
Oui, ça c'est une des questions qu'on a vu, qui a été soulevée d'ailleurs, les auditeurs l'ont peut-être entendu cet été, avec un procès à Marseille justement, où le capitaine d'un navire de croisière a été condamné, puisque les navires de croisière donc fonctionnent avec du fioul lourd qui contient des teneurs en soufre très importantes et donc occasionnent une pollution non négligeable. Il y avait une étude de France Nature Environnement qui soulignait qu'un navire de croisière rejetait dans l'air la quantité de particules fines que pourrait rejeter 1 million de voitures. Donc on voit un petit peu le différentiel. Alors il y a des choses de ce point de vue-là qui évoluent, puisque une des grandes évolutions dans le domaine de la propulsion navale en ce moment, c'est le passage à une propulsion GNL, donc au gaz. CMA-CGM, la compagnie française, vient de commander ses 4 premiers porte-conteneurs à propulsion à GNL. Donc il y a une évolution sur la durée qui va se faire, mais pour l'instant, effectivement, il y a des impacts non négligeables dans les villes qui accueillent ces navires.
Alors admettons que le marché bas de gamme se restreigne. Le secteur haut de gamme connaît une croissance encore plus rapide que le secteur bas de gamme, parce qu'il y a toujours des destinations vierges.
On appelle ça des croisières expéditions. Ce ne sont pas des expéditions à proprement parler, ce ne sont pas des croisières à proprement parler, mais c'est un mélange des deux. Donc c'est vraiment un type de croisière où on adapte notre programme en fonction des conditions météo, de l'état de la mer, et voilà, principalement ça.
Bon, bah, c'est un point extrême, et vous voulez voir ce que ça donnait en réalité par mes propres yeux, quoi. Plutôt que par des écrits ou des films. Les gens viennent pour quelque chose, ils viennent pas pour se relaxer ou autre, ils viennent pour moi, pour voir ce qui se passe au jour le jour et au moment voulu. C'est sauvage, il n'y a personne.
Le cri du manchot qui n'a pas nécessairement envie d'être vu.
Non, mais qu'il l'est de plus en plus, effectivement, parce qu'on a de plus en plus de croisières qui se développent à la fois en Antarctique.
Antarctique dès le début des années 90.
Exactement, et en Arctique.
Un peu avant, 90, 91.
Tout à fait. Et avec ceci dit, parfois des déconvenues, puisqu'on l'a vu là tout début septembre avec la compagnie du Ponant qui avait envoyé 2 de ses navires, dont le Boréal, pour justement en croisière en Arctique, et qui était obligé de faire demi-tour, puisque il y avait un tel nombre de glaces dérivantes que de toute façon la croisière n'était pas possible.
Vous voulez dire que le changement climatique ne va pas assez vite?
Ou le changement, là en l'occurrence,
il c'est déjoue les pronostics.
C'est que le changement climatique allait trop vite, puisque c'était des glaces justement qui n'auraient jamais dû se détacher. D'accord. Qui s'étaient détachées, ça c'était pas anticipé. Et alors il y a des questions qui se posent quand même de ce point de vue-là sur les croisières arctiques et antarctiques. On a dans les dernières années à quelques reprises frôlé la catastrophe, parce que ce sont des régions qui sont quand même assez peu documentées, où le sauvetage est compliqué à organiser. Donc il n'y a pas eu de drame pour l'instant, mais ce sont des régions en tout cas compliquées, et Atlantique dans lesquelles il faudra faire attention, mais c'est effectivement, ce sont des régions où les compagnies de luxe développent de plus en plus de destinations pour faire rêver leur clientèle.
Enfin, il y a intérêt à ce que le brise-glace de la compagnie du Ponant, qui appartient à la famille Pinot, fonctionne au gaz naturel liquide et non pas au fioul, parce qu'une marée noire en Arctique, vous imaginez. Et puis, il y a une ressource là, très importante pour les médias traditionnels, qui se plaignent du vieillissement de leur clientèle. Bah oui, mais c'est aussi un atout, le vieillissement de la clientèle des retraités, aisés, qui ont de l'argent et qui ont du temps. Donc, beaucoup de médias apportent une plus-value culturelle aux croisières qu'ils proposent avec différentes compagnies. Et alors, on retrouve toujours un peu les mêmes sur ces bateaux qui viennent parler.
Ah, de toute façon, c'est un produit d'appel, on va dire, comme la destination. On a le journaliste qui est vu à la télé, donc qui va permettre de faire venir une clientèle aussi.
Il y a une croisière extraordinaire qui s'appelle Les Merveilles de l'Histoire, et puis il en est d'autres qui sont consacrées, si, à la philosophie. Vous allez sûrement reconnaître, chers auditeurs, le protagoniste numéro 1 ou 1 bis de cette croisière grecque.
Je suis ravi de faire cette croisière, d'abord parce que j'adore les bateaux, j'adore être encerclé par l'eau, j'adore ce sentiment qu'on est sur une île flottante et qu'on a le temps de pouvoir converser avec les passagers. Et en plus, bon, bien sûr, les îles grecques, c'est formidable. Et puis, j'aime beaucoup Stéphane Bern, j'ai beaucoup d'affection pour lui. Je trouve que c'est très rare dans le milieu journalistique, il faut bien dire. C'est un journaliste cultivé, courtois, gentil, enfin, qui n'est pas dans la méchanceté, dans l'ironie. Donc, c'est vraiment quelqu'un de charmant, d'adorable. Ça me fait plaisir d'être avec lui. Et en même temps, en termes de voyage, c'est évidemment formidable. On ne peut rien rêver de mieux au mois de novembre que d'aller dans les îles grecques. Mais ce que j'aime dans les croisières, c'est le sentiment qu'on a un rapport au temps complètement différent. On va avoir le temps avec les passagers de prendre un petit verre, de discuter de la mythologie grecque, de parler de philosophie grecque, etc. Et donc on a un rapport au temps qui est complètement différent et qui nous permet, ce qui est d'ailleurs un des grands messages de la sagesse grecque, d'habiter enfin le présent, de ne pas être torturé par le passé et par le futur, d'être enfin dans le présent. On n'est pas pressé.
Vous aurez reconnu
Luc Ferry.
Mais dites-moi, un philosophe peut chercher comme ça la suspension du temps. Quelqu'un comme vous sait qu'elle est impossible, Cyril Coutançais.
Ou surtout qu'on peut la trouver dans plein d'endroits. Au fin fond de mon Cantal, l'été, je trouve de la même manière, je suis loin de tout et le temps est suspendu et c'est très bien.
Le Cantal est une île.
Pratiquement.
Est-ce que le contraste n'est quand même pas violent entre le bateau de première classe qui va explorer les merveilles de l'histoire en Méditerranée et les bateaux qui ne sont même pas de troisième classe couverts de réfugiés, la marine nationale marocaine hier a tiré sur l'un d'eux. Les règles du sauvetage en mer finissent par ne plus être vraiment respectées alors qu'on avait mis tant de temps à les établir.
Le contraste est effectivement saisissant et puis surtout, si on pour boucler la boucle d'une certaine manière, on voit bien que notre époque arrive à une segmentation à la fois des classes sociales et autres, puisque le Titanic quand même, ou à l'époque des grandes transatlantiques, oui, il y avait on compartimentait par classe, les migrants étaient effectivement dans la troisième classe du Titanic, mais ils voyageaient sur le même navire. Aujourd'hui, ce serait totalement impossible, puisque la segmentation par les prix fait que de toute façon, on sépare classe sociale, etc. Donc là, ça dit quelque chose de notre époque aussi, sûrement.
La croisière, nouvelle Eldorado. Enfin, le titre de votre livre avec Claire de Marignan, c'est La mer, nouvelle Eldorado. Et nous recommandons donc cet article dans la revue Études, juillet-août 2018, de Claire de Marignan. L'émission a été préparée par Franck Olivard et Philippe Duclos à la technique. Audrey Ripouille à la réalisation. Respirons, cher Mathieu.
Oui Jean, dans un instant, ce sera le thème de la tête au carré. Selon l'historien Thierry Éloi, dans la Rome antique, c'était l'acte le plus érotique, la respiration, figurez-vous.
Ah, oui. Mais c'est commandé par le cerveau, non?
Oui, entre autres.
Ah, la respiration et le cerveau, ça ne sera donc pas totalement érotique. Dans un instant, la tête au carré.